L'activisme politique et le journalisme à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux en Afrique étaient le sujet de la conférence du lundi 25 septembre 2017. Pour aborder cette question, Marie-Soleil Frère, vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération au développement de l'ULB, accueillait trois invités africains, deux journalistes et un activiste. Trois personnes qui expliquent comment Internet, les smartphones et les réseaux sociaux en particulier ont transformé leurs pratiques au quotidien.
On est très heureux d'accueillir Yves Makwambala. Vous avez souvent entendu ce nom. Yves est activiste au sein du mouvement citoyen La Lucha, la lutte pour le changement, un mouvement citoyen qui est né à Goma, en République démocratique du Congo. Alors, vous avez sûrement entendu le nom d'Yves à de multiples reprises parce qu'il a été emprisonné le 15 mars 2015 et est resté en prison avec deux de ses compagnons, Fred Boma et Christopher Ngoy, jusqu'au 29 août 2016. Donc, 17 mois en captivité, d'abord à Goma et puis à Kinshasa. Alors, comment Yves a été arrêté ? Il participait à une conférence sur la bonne gouvernance en Afrique qui était organisée par le mouvement Filimbi. Et ils ont donc été arrêtés en pleine séance. Ils avaient convié des camarades du Burkina Faso, du Sénégal. Et donc tout le monde a été embarqué, les uns ont été expulsés vers leur pays d'origine et les autres sont restés en prison avec une procédure judiciaire à leur encontre. Ils étaient poursuivis pour complot contre le président Kabila. Alors Christopher Ngoy, lui, il avait déjà été arrêté avant, au moment de manifestations qui se sont déroulées en janvier 2015 contre la révision de la loi électorale. Et donc lui aussi s'est retrouvé en prison avec un certain nombre de chefs d'accusation très 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 lourds, comme l'incitation à la haine raciale et les atteintes à la sécurité de l'État. Alors au cours de ces manifestations de janvier 2015, le gouvernement congolais avait pris toute une série de décisions comme celle de suspendre la téléphonie, les réseaux de téléphonie mobile, de suspendre l'accès aux réseaux sociaux, ce qui montre bien que les autorités craignaient le pouvoir de transmission de l'information, de mobilisation à travers ces vecteurs technologiques. Alors il y a 18 mois à peu près, on avait organisé une conférence similaire où on avait accueilli Floribert Anzuluni de Filimbi. Et on est très heureux aujourd'hui de recevoir Yves Makwambala. Je crois que c'est son premier séjour en Belgique depuis sa libération.
Pardon. Effectivement.
Voilà, donc il va pouvoir témoigner devant vous. Alors à la gauche de Yves, Patient Ligodi, qui est journaliste congolais, donc aussi de la République démocratique du Congo, et fondateur du site d'information actualité.cd. Alors actualité.cd, c'est un projet qui est né il y a maintenant plus d'un an dans la tête d'un jeune journaliste congolais qui avait décidé de créer un nouveau média, un média web qui puisse rivaliser avec les grands médias internationaux qui, jusqu'à présent, restent parfois dominants dans la couverture de l'actualité de certains pays africains. Et donc l'idée, c'était de produire grâce au web et par le web un média qui puisse être réalisé par des Congolais, pour des Congolais, mais s'adressant aussi évidemment à toute personne intéressée par le suivi de l'actualité congolaise. Et donc ça a été une réussite tout à fait remarquable, actualité.cd. Ce site est aujourd'hui opérationnel. De plus en plus de Congolais et de personnes à l'extérieur du Congo s'informent à travers ce média. Mais ce média se développe dans un contexte qui est loin d'être favorable. Donc Patient va vous parler des difficultés aussi qu'il y a à essayer d'être une presse en ligne professionnelle, libre, dans un contexte comme celui de la RDC, où à la fois le contexte économique et le contexte politique ne sont pas favorables au développement de ce genre d'initiative. Et puis on écoutera aussi l'expérience d'Esdras Ndikumana. Donc Esdras est un journaliste burundais qui a été pendant très longtemps le correspondant de RFI et de l'AFP à Bujumbura et qui est aujourd'hui en poste à la rédaction parisienne de RFI. Alors pourquoi et comment Esdras est arrivé à la rédaction parisienne de RFI ? Eh bien parce que le 2 août 2015, alors qu'il était en reportage à Bujumbura, il se rendait sur les lieux où avait été commis l'assassinat d'un proche du président Nkurunziza, donc le général Adolphe Nshimirimana. Et donc Esdras était en reportage et faisait des photos. Il a été interpellé par des agents du service de renseignement, il a été conduit dans leurs locaux, il a été battu pendant plusieurs heures et donc grièvement blessé. Il a dû être quelques jours plus tard évacué vers l'étranger pour pouvoir bénéficier de soins de santé. Et je pense qu'il n'a plus remis depuis lors les pieds au Burundi. Et donc, son employeur RFI a intenté une action en justice, a déposé une plainte pour torture. Et pourquoi nous avons voulu inviter Esdras aujourd'hui ? Parce que les technologies digitales ont joué un rôle important dans la manière dont la jeunesse burundaise s'est mobilisée au moment des manifestations anti-troisième mandat à Bujumbura. Donc les jeunes se mobilisaient contre la volonté du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Et depuis lors, même si la situation localement s'est calmée, les affrontements continuent par le biais de la webosphère burundaise. Et donc on assiste à des affrontements verbaux assez tendus entre les partisans du président Nkurunziza et les opposants qui sont pour la plupart en exil. Et donc Esdras Dikumana est un observateur fin de ces outils de communication et au quotidien analyse la manière dont les citoyens burundais sont devenus non seulement des récepteurs mais aussi des producteurs d'informations. Et donc votre présence ici ce soir a de quoi nous réjouir parce que voilà, ça montre qu'il y a des citoyens en Belgique qui restent concernés par ce qui se passe au-delà de notre petit précaré de privilégiés, qu'il y a encore une citoyenneté mondiale et que voilà, vous tous êtes intéressés, êtes attentifs à ce qui se passe dans des pays qui peuvent sembler lointains mais où des citoyens se battent pour essayer de faire vivre le débat démocratique dans un contexte difficile. Donc je pense que tout ce qui va être dit ce soir certes concerne l'Afrique, certes concerne le Congo ou le Burundi, mais tout ce qui va être dit ce soir nous concerne effectivement où que nous soyons, qui que nous soyons et quoi que nous faisions. Souvent, les expériences qui nous viennent du Burundi ou du Congo sont plus universelles que ce que certains peuvent penser. Et donc, je vais commencer par une première question que j'adresse aux trois d'entre eux. Ils répondront dans l'ordre qu'ils voudront, qui est cette question de l'arrivée des technologies et de ce que l'arrivée du téléphone mobile, l'arrivée des réseaux sociaux a changé dans leur pratique quotidienne, que ce soit leur pratique quotidienne de militants politiques, de militants citoyens, ou leur pratique quotidienne de journalistes. Et peut-être je vais commencer par donner la parole à Yves pour qu'il nous explique comment ces technologies peut-être ont changé, ont permis à son mouvement d'émerger, ont changé sa manière de fonctionner.
Merci. Notamment la technologie, notamment les nouvelles technologies avec tout, ont permis à... Ok. Merci. Nous ont permis notamment à travailler sur deux angles bien précis, notamment d'un point de vue externe et un interne. D'un point de vue interne, elles nous permettent au fait de nous réunir, d'échanger et de... Vu la forte répression que nous subissons dans notre pays et que nous n'avons pas la possibilité de nous réunir, à chaque fois que nous nous réunissons, c'était des arrestations à répétition. Et via notamment WhatsApp et certains autres réseaux sociaux, cela nous a permis de créer des groupes, notamment de communication, auxquels on se réunit fréquemment par rapport à une cellule. Parce que la lucha étant un mouvement horizontal, nous sommes répartis selon des cellules. Et les réunions qui concernent les rencontres ou les échanges sur toute l'étendue de la République, nous permettent de discuter en général via nos réseaux sociaux, en interne. Cela aussi nous permet notamment de planifier certaines actions que nous devons mener, que nous menons à répétition. Et d'un point de vue externe, cela nous permet de vulgariser l'information plus rapidement par rapport, jadis dans le temps, auquel on devait passer par un média traditionnel qui est la télé, les journaux et tout. La technologie nous permet de vulgariser une information plus large et plus rapidement, en premier lieu. Et en second lieu, elle nous permet aussi d'interagir directement avec les nouveaux aspirants ou les personnes qui essayent de savoir ce que nous faisons en fait.
Mais alors, est-ce que ces technologies sont vraiment accessibles aux jeunes Congolais moyens ? Ou est-ce que vous vous adressez quand même à une frange plus privilégiée de la population qui a accès à un smartphone, qui a accès à l'électricité. Est-ce que c'est vraiment une technologie qui est largement accessible ?
Je dirais le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est plus un problème lié à l'électricité, comme vous voulez le dire, parce que l'accessibilité, notamment de l'Internet, et avec la venue notamment des smartphones ayant un prix abordable, cela permet à ce que tout le monde...
Un prix abordable, c'est combien ? Ça coûte combien un smartphone au Congo ?
Un smartphone, actuellement, au Congo, on peut tailler dans $30 en moyenne. Mm-hmm. Qui permet, notamment avec $30 et $1, vous avez une connexion Internet, notamment pour 3 jours. Donc, la plupart des Congolais préfèrent utiliser ou acheter du crédit, par exemple, $1 d'Internet et ils activent sa connexion. Il a 3 jours Internet auquel il peut faire des appels, surfer, rester dans les réseaux sociaux. Et nous nous sommes dit, OK, cela étant le canal le plus... abordable, notamment en termes de coût, à $1, je peux faire 3 jours et arriver à nous entretenir entre nous, notamment en interne, et à vulgariser si jamais nous devons mener une action, parce que la plupart des actions que nous menons, on les publie via les réseaux sociaux et on appelle à toute personne qui le veut de venir participer à nos actions.
Donc ça veut dire que sans les réseaux sociaux, vous pensez que votre mouvement n'aurait pas pu se développer ?
Et je le dis, effectivement, sans les réseaux sociaux, le mouvement n'allait pas se développer à la vitesse qu'elle se développe actuellement.
Et donc vous avez passé 17 mois en captivité. Pendant ces mois de captivité, est-ce que vous aviez accès aux outils de télécommunication ? Est-ce qu'on vous a laissé votre téléphone ? Est-ce que vous pouviez continuer à être connecté ?
En prison, en fait, effectivement... on avait nos téléphones, mais qui, en tout état de cause, logiquement, c'est interdit. Mais on doit le dire, c'est interdit. Mais via certains mécanismes, on a pu avoir quand même nos téléphones en prison, ce qui a permis à ce qu'on était au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Mais moi notamment et Fred, nous nous sommes dit, OK, adoptons une politique, ne postons rien, ne publions rien. Mm-hmm. Nous allons juste... mettre à jour par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais en ayant on n'avait pas le droit de publier quoi que ce soit.
Peut-être pour en venir au Burundi, donc il y a eu ces manifestations de jeunes importantes en 2015. Est-ce que vous pensez que les technologies ont joué un rôle dans la mobilisation, comme elles ont pu jouer un rôle pour permettre la mobilisation des militants de la Lucha?
Oui, absolument, indéniablement. Je m'excuse. Les nouvelles technologies, le téléphone a joué un grand rôle dans la mobilisation, surtout dans la capitale, à Bujumbura. En fait, ce qu'il faut savoir, si on regarde ce qui se passe au Burundi, c'est que pendant longtemps, la société civile, c'est-à-dire les mouvements citoyens, n'ont jamais eu ce besoin d'utiliser la téléphonie, d'utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser. Pourquoi ? Pour tout simplement parce que le Burundi avait pendant longtemps l'un des pays où il y avait le plus de liberté de la presse en Afrique. Sur ce plan, c'était indéniable. On avait plusieurs radios qui couvraient un peu tout le spectre politique, donc de radios proches du pouvoir, des radios au centre, radios plus ou moins, des radios proches de l'opposition, etc. Donc on couvrait tout le spectre. Et quelqu'un de la société civile, par exemple, ou un politicien pouvait aller à la radio et appeler à une manifestation, à une mobilisation quelconque le lendemain, il n'y avait pas de problème, etc. On a tout vu, tout entendu dans nos radios. Et donc c'était vraiment... Pendant longtemps, ils n'ont pas eu besoin de mobiliser par ces réseaux. Et donc lorsque... En 2015, commence la crise burundaise, lorsqu'elle est déclenchée, lorsque le président Nkurunziza annonce sa volonté de briguer un troisième mandat, eh bien, la mobilisation commence. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une montée en puissance de l'utilisation de ces réseaux, en fait, de la mobilisation par les réseaux. D'abord parce que dès le premier jour ou le deuxième jour, le pouvoir va couper les radios. Le signal des radios va rester cantonné à la capitale uniquement. À l'intérieur du pays, on ne peut plus capter la radio. Et donc, pour mobiliser au-delà de la capitale, ils vont commencer par passer par ces réseaux. Premier point. Et Et donc, pendant un bon moment, ils vont utiliser les réseaux pour mobiliser, notamment le réseau WhatsApp, qui va servir énormément, les messages, etc. Et puis, on arrive au mois de mars, donc la crise va monter aussi en puissance, et on arrive à la tentative de coup d'État de mai 2015. Alors, la tentative d'un coup d'État en 2015 au Burundi c'est un véritable séisme, notamment pour le milieu médiatique, parce que les principales radios privées du pays sont détruites. Les mutins commencent par détruire une radio qui est un peu le symbole du pouvoir, la radio REMA. Le lendemain, les loyalistes vont détruire 4 des principales radios privées du Burundi. Et donc, du coup, il ne reste au Burundi que la radio nationale qui est un peu la voix du maître, la radio nationale qui est vraiment au service du pouvoir et du parti au pouvoir. Et donc, du coup, il n'y a plus de nouvelles. On ne peut plus mobiliser la société civile ne peut plus mobiliser à travers les radios. Et donc là, elle va se rabattre totalement sur les médias sociaux. Et c'est, donc c'est à partir de ce moment-là que qu'elles vont monter en puissance. C'est à partir de ce moment-là que les gens vont donc commencer à travailler sur Twitter pour passer les nouvelles. Je me souviens à cette époque-là, le lendemain, lorsque les radios sont détruites, c'est un peu la catastrophe dans le pays, parce qu'on est habitué à avoir un peu des points de vue différents. Tout à coup, c'est le silence radio, on tourne la radio, on n'entend rien que la radio nationale. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a un groupe de journalistes locaux qui s'est mis ensemble, parce que les autres journalistes avaient fui. Il y a un groupe de journalistes qui se sont mis ensemble et ont créé SOS Média, c'est-à-dire un peu un canal d'information par Twitter et par Facebook, où ils ont commencé à donner un peu les factuels de ce qui se passait sur le terrain, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de violence, beaucoup de disparitions, beaucoup d'assassinats, etc. Et donc, ils vont se mettre à donner ces informations. Tout le monde va se mettre alors à faire la même chose, hein, à partir de ce moment-là. Pour donner un exemple, un des principaux leaders de la société civile pacifique, Nina Hasgwe, qui compte aujourd'hui 50 000 followers sur Twitter, à l'époque avait moins de 1 000 personnes. Bon. Moi-même, à l'époque, d'ailleurs, je ne tweetais pas. Voilà. Donc, tout le monde s'est mis après, parce qu'il a fallu trouver des alternatives, notamment pour la plupart des gens qui sont à l'intérieur du pays, qui n'avaient pas autre chose. Et donc, tout le monde s'est mis sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui mobilisaient, notamment les citoyens, pour plusieurs raisons aussi. Là aussi, parce que la répression s'est fait sanglante à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de barrages, pratiquement des attaques. Comme on le dit, il y avait beaucoup de fouilles de l'armée, de la police dans les quartiers. Et donc, l'information circulait par WhatsApp. Lorsque les militaires arrivaient, etc., les gens envoyaient des messages par WhatsApp. Donc, tout le monde, ça a été un système d'alerte qui a été démocratisé un peu, qui a été utilisé sur tout le pays. On a continué.
Et est-ce qu'il y a eu des stratégies mises en place par les autorités pour contrôler ou freiner justement cette circulation alternative de l'information ?
Ah oui, on assiste jusqu'à aujourd'hui, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a une véritable guerre médiatique qui se livre entre les opposants, la société civile indépendante qui vit aujourd'hui en exil et les tenants du pouvoir. D'un côté, en fait, ce qui a changé aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il n'y a plus de violence comme telle sur le terrain. Il n'y a pas d'affrontement, mais les gens continuent à mourir. Il y a toujours des arrestations, il y a toujours des disparitions forcées, il y a toujours des cas de torture, des arrestations arbitraires, etc. Et il y a une chape de plomb qui recouvre tout ça. Tout est contrôlé, les médias sont contrôlés. Et donc, il y a des gens qui essayent de faire sortir toutes ces informations. Alors, il y a plusieurs groupes qui se sont constitués. Il y a des groupes d'internautes. Il y a par exemple des groupes sur WhatsApp lorsqu'il se passe quelque chose, on découvre un cadavre quelque part, que ce soit à l'intérieur du pays, prennent automatiquement une photo, l'envoient sur WhatsApp, donnent le nom, etc. Donc ça fait ressortir l'information malgré toutes les tentatives d'étouffer cela, en fait. Parce que le pouvoir, sa politique, c'est de dire que tout se passe bien, c'est la paix, c'est la sécurité, la vie est revenue à la normale. Et donc le pouvoir a mis en place un groupe une équipe dédiée. Qu'est-ce qu'il fait cette équipe-là? Plus ou moins, on connaît qui la dirige, etc. Il y a une vingtaine de personnes là-dedans. Ils ont créé autant de trolls, etc. Et donc, ils sont sur les réseaux sociaux et leur travail, c'est de contrôler et de suivre toutes les informations sur le Burundi qui, pour le pouvoir, donc, qui ternissent officiellement, entre guillemets, qui ternissent l'image du pouvoir, c'est comme ça qu'ils le qualifient. Et donc lorsqu'ils voient une telle information, ils vous tombent dessus. Bon, c'est tous les jours comme ça, moi, c'est... Bon, on s'habitue un peu, mais qu'est-ce que... Alors, c'est des réactions, c'est des insultes, c'est jamais sur le fond. Jamais sur le fond, jamais sur ce qui s'est passé, sur les événements que vous êtes en train de relater, mais c'est toujours un peu là, on s'en prend à vous. Voilà.
Il y a un rapport de International Crisis Group qui est sorti il y a quelques mois et qui mentionnait le fait que des jeunes pouvaient être arrêtés tout simplement parce qu'ils appartenaient à un groupe WhatsApp ou parce qu'ils avaient reçu via WhatsApp et téléchargé des émissions radiophoniques produites par la diaspora. Ah, et donc, est-ce que ce sont des informations confirmées? Est-ce
Absolument.
Qu'on peut être arrêté parce que simplement sur son téléphone portable, on a la preuve qu'on appartient à un groupe WhatsApp et qu'on suit un groupe?
Absolument, parce que c'est vraiment l'une des choses que la police contrôle immédiatement. Lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, la première chose, ils prennent son téléphone, ils contrôlent sur WhatsApp, le groupe WhatsApp, les groupes WhatsApp auxquels il appartient. Parce que les gens appartiennent généralement à plusieurs groupes WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp qui sont entre amis, des groupes d'obédience politique, etc. Et donc, les gens se passent des informations, justement, sur les mouvements de la police, etc., sur tout ce qui se passe. Et donc, j'appartiens plus, bien sûr, à plusieurs groupes. À un certain moment, j'ai eu la chance, un ami entre guillemets m'avait mis dans un groupe de pouvoir un peu là. Je ne suis pas resté longtemps, ils m'ont éjecté, mais c'était une très très bonne source d'infos. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, lorsque quelqu'un va se déplacer par exemple à l'intérieur du pays, lorsqu'il sait qu'il va dans une zone à risque, qu'il risque de rencontrer des policiers qui risquent d'être contrôlés, il prend le soin d'abord de se désabonner du groupe WhatsApp auquel il appartient. Parce que c'est du sérieux, les gens ont été arrêtés, il y a des gens qui sont portés disparus, qui ont été tués, il y a des gens qui ont été torturés, il y a des gens qui sont en prison depuis 2 ans maintenant, parce qu'ils étaient dans un groupe WhatsApp qu'il ne fallait pas. Alors, un autre quand même aspect qui est important et qui est joué, un autre rôle important qui est joué par ces groupes, c'est que aujourd'hui il y a des groupes dédiés, par exemple, des initiatives qui sont en train de faire le monitoring de toutes les violences qui sont sur le terrain. Mm-hmm. Et ça c'est un truc qui est très très fort. Et donc ils font des rapports très documentés chaque semaine, par exemple. Bon, je vois quelqu'un ici qui fait un tel travail, qui est de la société civile burundaise. Il y a un autre groupe, par exemple, Initiative Ndondeza, ça veut dire « Aidez-moi à retrouver le mien ». Ils font des recherches sur les personnes qui sont portées disparues et ils essayent de retracer tout le parcours depuis son arrestation, qui a participé. Et c'est vraiment du travail professionnel. Et donc, il y a des initiatives de ce genre qui permettent un peu là de mettre en lumière les violences qui sont commises tous les jours au Burundi. Et c'est ça l'engagement citoyen dont on parle, en fait. Il y a au Burundi des centaines de gens, des milliers de gens qui sont encore dans l'armée, dans la police, qui sont dans ces corps qui sont utilisés dans ces violences, qui donnent de telles informations, justement. Parfois, il y a des photos qui ressortent, des photos prises au sein du service national de renseignement, des trucs de ce genre. Donc, il y a des gens qui... Parce que c'est au risque de leur vie. Hein. C'est vraiment... Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et lorsqu'on est arrêté dans ces cas-là, c'est clair, le sort est connu. Et donc, c'est vraiment des gens qui prennent ce risque-là tous les jours pour informer sur ce qui se passe. Voilà.
Merci beaucoup, Esdras. Je vais me retourner maintenant vers Patient Ligaudy. Donc, comme Esdras l'a dit, on trouve tout et son contraire sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, vous, au niveau de actualité.cd, comment ces technologies-là ont changé votre manière de travailler? Est-ce que vous considérez que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux contribue à vous aider à mieux informer le citoyen ou contribue à désinformer le citoyen? Comment faites-vous la part des choses?
Merci pour la question. Mais d'abord, rendre hommage à Esdras pour le travail qu'il a battu pendant tout le temps qu'il était au Burundi. C'est vraiment une belle source d'inspiration pour tous les journalistes, du moins au niveau de la région de Grand Lac. D'abord, pour dire que les réseaux sociaux sont une chance pour non seulement les médias et les journalistes, mais surtout pour la démocratie congolaise. Il faut comprendre d'abord qu'au Congo, les médias appartiennent d'abord aux hommes politiques, ensuite aux hommes d'église. C'est comme ça que la configuration de la sphère médiatique congolaise est constituée. Donc, vous avez chaque chef de parti qui veut avoir une chaîne de télévision, une station de radio, ainsi de suite. Et au niveau de province, ils aiment à les appeler des radios communautaires qui, en réalité, pour la plupart des cas, ne sont communautaires que pendant un temps, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Et là, vous les sentez venir avec des discours assez extrémistes. Ça, c'est la première des choses. Alors, l'arrivée des réseaux sociaux a permis justement, un, de libérer la parole pour d'abord la société civile, les publics, les jeunes, mais aussi ça a permis aux journalistes qui travaillaient pour la plupart dans ces médias qui sont catégorisés de pouvoir donner un autre son de cloche. Vous avez par exemple des journalistes qui travaillent pour un média proche du pouvoir, mais quand vous regardez ce qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux, vous sentez qu'il y a une différence entre ce qui est diffusé sur leurs médias et ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Et troisièmement, vous avez pour beaucoup, en tout cas, moi je travaille pour la presse des traditionnels au départ, je suis un journaliste radio. Quand vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de possibilités de pouvoir ouvrir une radio, une chaîne de télévision ou un journal, ce que vous faites, alors vous allez vous armer de téléphones pour arriver justement à constituer une rédaction comme ce que nous on a fait. Une rédaction qui essentiellement fonctionne avec les téléphones, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les traitements de son, que ce soit dans le traitement de vidéo ou des images, pour justement diffuser les informations. Donc, je me résume. Internet a été une grande chance et jusqu'à aujourd'hui, c'est une chance. C'est comme ça qu'à un moment donné, et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à croire, ceux du pouvoir, que Internet, c'est le principal canal utilisé par l'opposition et le mouvement citoyen. Quand il y a une manifestation, première réaction justement, c'est arriver à suspendre. Si on ne coupe pas Internet dans son entièreté, on suspend pratiquement l'accès à certains réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme aussi WhatsApp, parce que comme au Burundi, beaucoup se sont fait arrêter justement parce qu'on a retrouvé dans leur téléphone des images compromettantes à leurs yeux, ainsi de suite. Et jusqu'à il y a 2 semaines, il y avait encore des checkpoints à Kinshasa, où quand on vous arrêtait dans votre téléphone avec une image qui mettait mal à l'aise le président de la République ou quelqu'un du régime, directement on vous arrête et on vous amène dans un endroit assez compliqué. Pour nous, les réseaux sociaux, pratiquement, c'est une chance. Pour la démocratie, c'est une chance. Et on l'a vu encore l'année dernière, parce que jusqu'à 2016, le président Kabila n'avait pas une grande opposition en face de lui. Et là, on a vu émerger Moïse Katumbi, qui était un ancien allié, qui est parti, qui est venu justement ici en Europe, et qui avait pratiquement comme moyen de communication Internet, Twitter. C'est l'homme politique congolais qui, aujourd'hui, a les plus grands nombres de followers sur Twitter, par exemple. Et la plupart de ses communiqués sont d'abord diffusés sur son Twitter avant d'être partagés sur d'autres réseaux. Et du coup, moi, en tant que journaliste, le rapport que j'entretiens avec les sources, ça change. Quand j'ai fait ma veille avant, quand je faisais ma veille, je suivais d'autres médias, les radios, les télévisions, ainsi de suite. Mais en tant que journaliste, ce que j'ai fait, quand je me réveille, je commence à scroller d'abord sur Twitter. C'est là que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans la ville, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un témoin? C'est comme ça que ça se passe d'abord. Et deuxièmement, l'année dernière, en fait, a vu émerger des mouvements citoyens comme Lucha, comme Filimbi, et un front qu'on appelait les Fronts Citoyens, qui regroupait justement un grand nombre de mouvements citoyens, qui avait comme principale voie de communication justement les réseaux sociaux, où on a vu émerger justement beaucoup de voix, beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a connues grâce notamment à Facebook et à Twitter. Alors quand vous prenez le rassemblement de l'opposition qui utilise essentiellement les réseaux sociaux pour mobiliser, et vous trouvez également des médias en ligne qui sont justement qui ont apparu en 2016. Et vous ajoutez à cela les réseaux sociaux, ça fait un grand boom et ça fait peur aux gouvernants, puisque pour eux, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir restreindre ou contrôler tout ce qui s'est dit, tout ce qui peut se passer, alors ce qu'ils font, soit ils coupent, soit ils restreignent l'accès aux principaux réseaux sociaux. Et heureusement, toujours comme ça se passe au Burundi, chaque fois qu'il y a une mesure comme ça qui se trame, on a toujours quelqu'un pour prendre une photo, pour alerter le monde, pour que l'on commence à en parler avant qu'il ne puisse prendre ces types de décisions.
Alors, Esdras l'a mentionné, et puis vous aussi, est-ce que ces réseaux sociaux encouragent la participation de la diaspora aux débats politiques locaux? Est-ce que les réseaux sociaux, la téléphonie mobile sont des outils qui ont permis finalement à la diaspora de plus peser dans le débat politique local?
Oui, évidemment. Quand vous prenez un mouvement comme un groupe comme le Rassemblement de l'opposition, qui aujourd'hui apparaît comme la plus grande plateforme de l'opposition, qui réunit les G7, qui en fait les 7 partis politiques qui sont issus de l'ancienne, enfin de la mouvance présidentielle, et qui réunit également d'autres partis politiques comme l'UDPS et les FONUS, enfin à l'époque les FONUS et d'autres partis politiques, vous vous retrouvez comme ça avec des opposants qui pour la plupart sont installés en Belgique, en Europe, et qui communiquent essentiellement sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, tout ce que les Congolais veulent dire, ceux qui sont dans la diaspora, quand ils communiquent d'abord sur les réseaux sociaux. Joseph Kabila a pris la parole sur la tribune des Nations Unies il y a trois jours, mais c'était essentiellement commenté par les Congolais qui sont à l'étranger, qui s'étaient mobilisés pour se rendre à New York, pour manifester justement leur colère, faire passer un certain nombre de messages. C'est par là, par exemple, qu'on a compris qu'il y avait un certain nombre d'Africains qui n'étaient pas forcément des Congolais et qui étaient mobilisés, qui ont mis des t-shirts à l'effigie du président de la République pour montrer leur soutien au président de la République, pour faire croire justement qu'il y avait des Congolais qui s'étaient mobilisés pour soutenir le président de la République à New York. Donc ça, on ne l'aurait pas su s'il n'y avait pas des Congolais de la diaspora qui avaient accès à Internet et qui avaient envie ou besoin d'informer leurs compatriotes qui sont restés au pays.
Je voudrais revenir sur la question de l'accessibilité. Donc Yves mentionnait tout à l'heure que l'Internet est peut-être plus accessible qu'on ne le pense, qu'on peut avoir un smartphone pour $30 au Congo. Est-ce que vous, à actualité.cd, vous voyez qu'il y a une progression de l'accessibilité, donc que votre site est accessible à un nombre de plus en plus grand oui, de Congolais, et que vous, dans cet immense pays, que vous pouvez recevoir des réactions qui viennent vraiment de l'ensemble du territoire?
Je pense qu'il faut relativiser. Parce que, le Congo, c'est environ 80 millions d'habitants. Quand on regarde les dernières études qui ont été faites, on est à environ 3,8% des taux de pénétration d'Internet, ce qui fait environ 7 millions, 8 millions de personnes qui ont accès à Internet. Nous avons environ 2 millions de visiteurs uniques chaque mois sur actualité.cd. C'est un chiffre assez incroyable quand on sait qu'on a commencé il y a à peine une année. Et voilà. C'est pour dire qu'il y a vraiment une progression en termes d'accès, mais également un besoin qui est là. Les gens ont besoin d'être informés, et non seulement être informés, mais de participer au débat démocratique. C'est ça aussi notre problème. Parce qu'avec les médias dits traditionnels, ils n'ont pas la possibilité de participer. Sur les sites internet comme actualité.cd, ils ont non seulement là où ils peuvent mettre leurs commentaires, mais aussi ils peuvent partager, discuter sur Facebook, sur Twitter, dans les réseaux sociaux et consorts. Donc il y a une grosse progression Et ça, je pense que les autorités sont conscients et chaque fois, on les sent, ils ont vraiment une envie de pouvoir contrôler. Avant, il n'y avait pas, par exemple, au niveau de la présidence, un conseiller spécial en matière de technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il y a un conseiller spécial en matière de télécommunication et du numérique. Ça, c'est la même chose. Même l'appellation du ministère qui était à l'époque le ministère de PTT est devenu ministère de Poste, Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Donc, on sent la volonté de pouvoir maîtriser plus ou moins ces secteurs qui, jusque-là, leur échappent. Et comme ils ne savent pas tout contrôler, la solution la plus facile, c'est de couper.
Yves, je voudrais revenir... un moment sur la question de la jeunesse. Donc, je disais dans l'introduction que la jeunesse, c'était une catégorie sociale, bon, construite évidemment, mais qui avait peu accès à la parole publique et peu accès au débat politique. Est-ce que vraiment ces nouvelles technologies, qui sont mieux maîtrisées par les jeunes générations, peuvent changer la manière dont la jeunesse pèse sur le débat politique dans un pays comme le Congo ?
Je dirais oui. Comme vient de le dire Patient, de plus en plus, on se rend compte que les gens deviennent actifs et veulent participer à l'échange et débat politique.
Oui, mais est-ce qu'ils seront entendus ? Donc, qu'ils soient actifs, c'est une chose, mais okay. Est-ce qu'ils seront entendus ?
Je dirais oui, parce que nous avons eu la preuve, notamment la modification de la loi référendum en 2015. La mobilisation est partie des réseaux sociaux, avec laquelle le président, ou notamment le Sénat, a dû bloquer la loi du référendum. Donc c'est là, en tout cas, j'ai déduit que cela montre que la jeunesse, quand même, s'active, au fait, dans cela.
On a un cas précis, il y a un ministre qu'on a démis, parce que justement, il y avait ce qu'on appelle une sextape de lui, qui était sortie. Et il y a une grosse mobilisation qui a été faite sur Facebook et Twitter. Et en moins de 3 heures, les ministres ont été démis de ses fonctions. C'est des choses qui étaient inimaginables à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Mais je me rappelle, toi aussi, tu as dû te faire arrêter, non ? Lors de la...
Oui.
Oui, en fait, moi, j'étais en prison.
Oui, lui aussi, c'est... Oui, mais en fait, moi, j'ai été arrêté parce qu'il y avait un gros mouvement qui a été monté sur Internet, justement, pour essayer...
Le coup d'Internet.
Oui, de lutter contre la cherté d'Internet. En fait, ils avaient compris que laisser accès, la liberté à tout le monde d'avoir Internet, c'était compliqué. Ce qu'il fallait faire, c'était notamment hausser les prix d'Internet. On était parti, par exemple, de 50 gigas qui coûtaient $50 américains à 50 gigas qui coûtaient maintenant, on va dire, $500 américains. Et du coup, il y avait une grosse mobilisation qui a été faite par les internautes. Et c'est moi aussi, je faisais partie justement de personnes qui avaient organisé, parce que moi, mon boulot, c'est sur Internet. J'étais parmi ceux qui revendiquaient. Et voilà, on avait décidé d'organiser ce que nous, on appelait les Nuits debout de Kinshasa. On s'était rassemblés devant l'hôtel du gouvernement à 18h. Et bon, c'était une bonne dizaine de personnes qui étaient rassemblées. Et malheureusement, pour nous, il y avait également la police qui s'était invitée. Et ils en avaient arrêté 4, dont moi. Et petite bastonnade, comme d'habitude. Et puis, heureusement qu'il y avait une grosse mobilisation également des internautes qui a fait en sorte qu'ils étaient obligés justement de nous libérer. Et voilà.
Et notamment, pour compléter tout simplement Patient, il y a eu encore aujourd'hui des arrestations à Kinshasa, notamment pour l'affaire de passeport, parce que d'ici le 16 octobre, le gouvernement congolais se dit de mettre fin au passeport semi-biométrique par rapport au passeport biométrique. Il y a une mobilisation, notamment, déjà, il y a déjà 2 jours, on a dû arrêter certains amis qui se sont réunis tout simplement pour réclamer, déposer un mémorandum pour demander à ce que le ministre essaie de sursoir sa décision. Ils s'y sont les arrêtés. Et Dieu merci pour eux. Tout le déroulement en fait de l'arrestation, il y a un qui avait son téléphone, ouais, qui avait mis Facebook Live, qui filmait tout le processus en fait. Et cela a permis à mobiliser les gens et dans la soirée, hein, dans la soirée, on les a libérés. Mm-hmm. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des amis, notamment du mouvement auquel je fais partie, la Lucha, qui sont arrêtés. Ils ont manifesté, ils ont appelé à la manifestation pour notamment réclamer, comment demander au ministère, au ministre notamment, de sursoir sa décision. Et aujourd'hui, on les a arrêtés. Et c'est notamment grâce à Internet qu'on arrive à mobiliser, et ainsi, grâce à Internet, on arrive à diffuser en fait l'information.
Alors, peut-être un contre-exemple, Esdras, quand même, au Burundi, on a vu plusieurs cas d'informations erronées, tronquées, qui circulaient sur le net, et ça a aussi décrédibilisé, quelque part, les militants, parce qu'un certain nombre d'images ont été montrées comme étant des images tournées au Burundi, puis en fait, c'est avéré qu'elles n'étaient pas tournées au Burundi. Donc, c'est quand même aussi une arme à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a aussi une capacité de véhiculer des informations fabriquées et dès lors aussi de faire perdre une certaine crédibilité à l'opposition politique ou au mouvement citoyen.
Oui, absolument. Bon. Tant que ce n'est pas seulement le seul mouvement citoyen à qui ça peut arriver d'utiliser de telles images. De l'autre côté, on en use aussi allègrement. Donc, ce que je voulais dire, donc, oui, absolument, vous avez raison. Donc, on a eu plusieurs cas au Burundi où on a eu des fake news, comme on les appelle aujourd'hui, maintenant, bah, grâce à notre cher président Trump. Bah, alors, on a des fake news qui ont circulé. Une des plus célèbres, bah, elle est passée à une télévision française. On a passé à une télévision française des images tournées il y a plusieurs années au Nigeria. C'est des images atroces. Atroces, tuerie, atroces, quelque chose. C'était vraiment sauvage. Et on les faisait passer pour quelque chose qui venait de se passer au Burundi, de récent au Burundi, pour montrer que la situation était en train de s'aggraver. Et bien sûr que de telles images, de telles nouvelles font du mal, font beaucoup de mal au mouvement citoyen, font du mal à la mobilisation. Lorsque les choses, parce que déjà, tous ceux qui luttent contre cette mobilisation vont prendre prétexte de cela pour. Ils vont faire du tapage autour pendant des mois, des semaines, des mois, même maintenant. Le pouvoir appelle toujours cet épisode régulièrement. Donc c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Malheureusement, là aussi, c'est difficile parce que, justement, l'un des principes de base des réseaux sociaux, c'est la liberté. Il y a ceux qui sont organisés, les médias qui sont organisés, où on contrôle l'information. C'est le cas au Burundi, où, par exemple, toutes les radios indépendantes qui ont été détruites sont maintenant sont à l'étranger et émettent sur les réseaux. Ils font des journaux qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, etc., Facebook. Cela, ils contrôlent, ils vérifient leurs informations, ils font leur travail de journaliste. Mais à côté, il y a des gens qui veulent bien faire ou voilà, qui passent des informations, qui font n'importe quoi. Et ça, la conséquence, c'est que généralement, ça rejaillit sur tout le mouvement. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter absolument.
Je voulais vous poser à tous les trois une dernière question, un peu au-delà de la question des technologies, des réseaux sociaux et de la téléphonie mobile. Pour vous, quels sont les enjeux aujourd'hui de la mobilisation citoyenne au Congo, au Burundi? Et donc, effectivement, dans un second temps, en quoi les technologies peuvent aider cette mobilisation-là? Mais quels sont les enjeux de la mobilisation citoyenne et qu'est-ce que nous, ici, en Europe, on peut apprendre aussi de la manière dont les jeunes se mobilisent aujourd'hui en Afrique?
Enfin, d'abord, moi, je parle en tant que journaliste. Hein. En tant que journaliste, pour nous, c'est important parce que les trois prochains mois, ça va être vraiment compliqué, étant donné qu'on est dans une sorte d'incertitude. On ne sait toujours pas quand est-ce que vont se tenir les élections qui étaient prévues l'année dernière, qui ont été reportées cette année. On ne sait pas si ces élections vont avoir lieu. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, on sait très bien que les forces de l'ordre, les forces de sécurité ne reculent pas quand il s'agit justement d'arriver à contenir et les journalistes et les médias, parce que par exemple la dernière fois quand les gens de la Lucha se sont fait arrêter, ont été arrêtés. Il y a deux de nos journalistes d'actualité qui ont été également arrêtés. La question, c'était pourquoi vous vous retrouvez toujours là ? Chaque fois que les gens de Lucha font leur manifestation, pourquoi on doit toujours retrouver quelqu'un d'actualité.cd ? Donc, vous êtes au courant de ce qui... Il y a ça. L'autre chose, c'est aussi les coûts, comme on a dit, les coûts d'Internet. Les coûts d'Internet, aujourd'hui, je suis même tenté de dire que c'est dans une stratégie pour limiter l'accès à Internet. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une association des médias d'information en ligne pour, un, professionnaliser les médias en ligne, on est à 14, pour justement éviter la propagation des fake news, comme évidemment c'est le cas. On ne peut pas tout contrôler, malheureusement. Il y a des gens qui mettent tout et n'importe quoi sur Internet. Mais quand on s'est dit journaliste, je pense qu'on a ce devoir, cette responsabilité sociale, de pouvoir, même pas une responsabilité sociale, même la déontologie en soi, de pouvoir chaque fois, après avoir vu ou entendu, vérifier et essayer de faire rentrer les faits dans le moule journalistique pour en sortir une information. Ça, c'est notre responsabilité et ça, c'est le plus grand problème en RDC en ce qui concerne les journalistes. Alors, malheureusement, on n'a pas encore des écoles de journalisme qui essaient justement d'intégrer ces éléments.
Ah, vous en avez des écoles de journalisme ?
Oui.
Il y en a une quantité impressionnante.
Oui, on a des grandes écoles de journalisme, entre guillemets, chez nous, mais qui fonctionnent encore suivant un modèle archaïque. Des gens qui apprennent des choses qui ne vont pas appliquer. Moi, je suis issu de la plus grande école de journalisme du pays, qui s'appelle IFASIC, anciennement ISTI. Mais je dois avouer que... ce qu'on enseigne aux étudiants aujourd'hui, ils ne vont pas l'appliquer. Nous, on a du mal, par exemple, on reçoit chaque jour des stagiaires qui arrivent, mais qui n'ont pas les langages actuels des réseaux sociaux, les langages qui ne savent pas écrire pour le web, par exemple. Ils apprennent encore à écrire comme on écrivait à l'époque, 2000 signes, 3000 signes pour les journaux papier, ainsi de suite. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, un journaliste, c'est pratiquement un mouton à cinq pattes. On lui demande de faire des choses qu'on demandait à cinq personnes de faire il y a 10 ans. À un seul journaliste, on demande cela. Il faut comprendre le langage informatique. Il faut essayer un tout petit peu de comment ça se passe, la culture numérique, ce qu'on demande aux journalistes aujourd'hui. Donc, on a ces défis-là, en termes de formation. On a les défis en termes de coûts. On a les défis en termes de la législation. Aujourd'hui, ils peuvent se lever et dire ceux-là qui se réclament comme médias en ligne, ils n'ont pas les droits d'exercer en RDC. Donc, on a une législation assez compliquée, à bâtir. On a encore la coexistence du ministère de la Communication et des Médias et les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication. Du coup, parfois, ils se marchent dessus quand ils prennent les décisions. On s'est réveillé un beau matin, on a entendu les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication sortir un communiqué pour dire que tous les médias en ligne doivent produire une grille de programmes et aller déposer au CESAC. Bah, une grille de programmes, quand on est un média en ligne, ça veut dire quoi, une grille de programmes ? C'est-à-dire, ils cherchent comme ça des possibilités de pouvoir vous embrigader dans une sorte de, on va dire, des prisons, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les plus grands défis que nous avons. Et puis, nous avons les défis de la sécurité. Aujourd'hui, un journaliste n'est pas sécurisé quand il va sur le terrain. Ils sont considérés comme des militants, malheureusement. Quand ils vont sur le terrain, la première des choses, quand on remarque que vous êtes journaliste, on vous prend votre matériel, votre téléphone. Et quand on vous prend votre téléphone, évidemment que moi j'étais en contact avec lui quand il était en prison. Évidemment qu'ils vont trouver que j'étais en contact avec lui. Évidemment qu'ils vont m'inculper parce que je suis en contact avec lui. Donc il y a comme ça des possibilités de pouvoir vous mettre dans une sorte de prison à ciel ouvert pour que vous n'exercez pas votre travail. Heureusement pour nous, on a des jeunes qui sont assez courageux et qui savent que s'ils ne font pas ce travail-là, peut-être que c'est tout ce qu'ils ont appris, justement. Ils ne feront pas autre chose. Et ils sont là, ils se font arrêter, le lendemain, ils reviennent, ils font le travail. Mais beaucoup de gens ne savent pas par quoi ils passent pour faire le travail de produire au quotidien de l'information.
Oui. Yves, les enjeux, les défis pour la mobilisation citoyenne actuelle et de demain.
Je vais pas comme un journaliste comme toi.
Je réponds comme un militant.
Ok, merci. Notamment, Passion vient d'évoquer un point qui est un sujet d'actualité dans le pays, notamment les élections. Nous essayons de mobiliser les gens au maximum pour éviter le risque que nous voyons devant nous. Notamment, d'ici décembre, on craint qu'il n'y ait pas des élections et que cela soit une porte ouverte, notamment à des troubles à répétition. Déjà, nous le vivons actuellement dans notre pays. Et c'est là, nous nous sommes donné ce devoir-là, de vouloir sensibiliser, toucher et leur dire, okay, essayons d'agir pacifiquement pour que nous, notamment, amenant en fait notre pays, depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais connu une alternance pacifique. Ça a été toujours soit un coup d'État, le président qui s'est fait tuer au pouvoir, et ainsi de suite. Et nous, selon nous, hein, on a la conviction que avoir une alternance pacifique à la tête du pays mettra fin au cycle de violence à répétition que nous avons toujours connu dans le pays. Mmh. Et ça, on doit se le dire. Notamment, la Constitution, on la considère comme un ensemble de règles de notre pays qui a permis à mettre fin à la guerre. Parce que c'est le fruit d'une alliance, notamment on a connu le 1+4 parce qu'on a fait plusieurs rébellions dans notre pays. On a dû asseoir tous ces groupes rebelles pour pour élaborer une constitution, pour avoir un système d'alternance qui permet au pays d'avancer. Et actuellement, nous avons la conviction que ces règlements en fait, établis entre eux, où notamment la constitution, va être violée. Et c'est là, ça sera une porte ouverte, légitime en plus, à une guerre et une rébellion en répétition. Et notamment, c'est ça. Et dans l'autre point, ou bien de dire patient tout à l'heure, la désinformation, ce qui est vrai, c'est qu'on ne contrôle rien. Une autre personne peut publier ce qu'il a publié, et nous, on ne pourra pas le contraindre de publier une information fausse ou une bonne information. Mais ce que nous, notamment dans la cellule où moi je me retrouve, notamment au sein de notre mouvement, c'est que nous avons la mission, en fait, à chaque fois que nous voyons une actualité quelconque sur les réseaux sociaux, on se fie notamment à différents sites internet pour essayer d'avoir la véritable information, notamment les sites de patients, fait partie de nos sources d'information aussi, et que nous, à notre tour, on voit une fausse information. Notamment, il y a eu, avec les élèves, quand on a vendu une école, dans la capitale, hein, dans notre pays, et les élèves ont manifesté, en fait, sont sortis pour aller voir le ministre pour dire non, vous vendez une partie de l'école. Et au même jour que la manifestation s'était à Kinshasa, au même jour, il y avait une manifestation au Gabon. Et du coup, il y a une photo d'une fille ensanglantée avec qui circulait dans les réseaux sociaux. Du coup, regarde, le message est venu, hein, en RDC, les autorités tirent sur les enfants. Et je vous jure, cette photo a fait le buzz. Et là, nous nous sommes activés pour d'abord savoir si l'information est réelle. Et à partir de là, on a commencé à remonter les sources. Nous nous sommes rendus compte que l'information n'était pas réelle. Et c'est à nous de véhiculer le message dans l'autre sens pour dire, OK, l'information n'était pas réelle, et ainsi de suite. Donc c'est ça.
Merci beaucoup. Esdras, les enjeux et les défis pour les mobilisations citoyennes, on voit bien qu'au Burundi, aujourd'hui, c'est devenu compliqué de se mobiliser à l'intérieur du pays.
À l'intérieur, ça mobilise beaucoup. Bon, ça dépend. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu là, on parle de la jeunesse. Les autres ont abordé ce point. C'est que la jeunesse au Burundi, aujourd'hui, il faut le souligner, est vraiment au centre du coup, au centre de la vie politique. Depuis, c'est un peu toujours comme ça dans les pays en guerre, c'est la jeunesse qui est au centre, qui prend toujours une place primordiale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ceux qui ont manifesté au Burundi, ce sont les jeunes. Ceux qui se sont fait tirer dessus, ce sont les jeunes. Ceux qui, une partie a décidé de prendre des armes, ce sont des jeunes, etc. Donc ce sont les jeunes qui se sont mobilisés, qui ont tout fait. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, en très grande partie, ceux qui ont fui, il y a plus de 400 000 Burundais qui sont aujourd'hui en exil, ce sont des jeunes. Voilà. Et de l'autre côté aussi, on mobilise les jeunes. Hein. Le parti au pouvoir mobilise chaque semaine des dizaines, sinon des centaines de milliers de jeunes qui voient hégémonie tous leurs ennemis supposés, Union européenne, Occident, Rwanda, etc. Bon, voilà, voilà. Et donc, les jeunes sont au centre du jeu politique. C'est toujours comme ça, surtout dans les périodes de crise. Alors, les jeunes aussi sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Certains font un travail formidable. Il y a des groupes de jeunes de réflexion. Il y a un groupe de réflexion, par exemple, de jeunes qui est à Bujumbura, qui est toléré, ça m'a toujours surpris. Waza, ça signifie réfléchissez. Sont des jeunes un peu de tous les bords politiques, de toutes les catégories, de toutes les couches sociales, des jeunes qui parlent, discutent profondément politique, donnent leur point de vue, etc. Mais des articles de fond, c'est pas vrai. Ils ne font pas dans l'actu, mais c'est très très intéressant. C'est un peu là. Bon, j'aime bien lire ça parce que ben, ça rafraîchit un peu. Voilà. Et à côté de ça, il y a aussi des jeunes qui sont engagés ici. Donc, lorsqu'on parle de défis, je pense que, par exemple, pour la société civile burundaise, quel est le principal défi aujourd'hui pour la mobilisation citoyenne burundi? C'est dans un pays où il y a une chape de plomb qui s'est abattue comme ça sur l'ensemble de la population, où les gens ont peur, où les gens ne peuvent plus parler, où les gens n'osent plus bouger, où il y a des violences qui se commettent. Je pense que le plus grand défi, c'est un peu là. Que les gens se mobilisent pour que cela ne se passe pas, inaperçu, que cela se sache, que les gens, que les responsables soient connus, qu'un jour ils puissent payer. Je pense que c'est vraiment très très important et c'est ce qui est en train d'être fait. Et comme je l'ai expliqué, certains prennent des risques énormes pour faire ce travail. Certains prennent des risques tous les jours. C'est vraiment risquent leur vie pour. Que ce qui se passe là, toutes ces violences ne se passent pas, ne passent pas sous le radar. Et donc c'est très très important. Alors un autre défi pour la jeunesse, c'est pour ceux qui se mobilisent, c'est celui de la paix, je pense un peu là. Il faut que les gens se battent pour la paix. Il faut que les gens se battent un peu là. C'est pas facile.
Se battre pour la paix.
Oui. C'est ce qu'il y a de bien avec le verbe se battre. Ça peut être d'une manière figurée, là. Mais se battre, c'est-à-dire s'engager pour la paix de toutes leurs forces. Un peu là, c'est. Et connaître la vérité fait partie de cela. Et dire les choses comme elles sont fait partie de cela. Et être ouvert, tendre la main à l'autre, je pense que tout ça fait partie de cela. Alors. C'est difficile dans un pays comme le Burundi. C'est vraiment très, très difficile. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages.
Vous venez d'écouter une conférence organisée par l'ULB à l'initiative de Marie-Soleil Frère, vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération à l'aide au développement. Yves Makwambala, activiste au sein du mouvement Lucha, Patient Ligodo, journaliste congolais pour la plateforme actualité.cd, et Esdras Ndikumana, journaliste à la rédaction parisienne de RFI. Il répondait aux questions de Marie-Soleil Frère sur le thème de l'activisme et du journalisme à l'heure des réseaux sociaux et de la téléphonie mobile en Afrique. Retrouvez les enregistrements de cette soirée sur sonore.ulb.ac.be.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.